Je suis Laurence Deschamps-Laporte, professeure en sciences politiques et directrice scientifique du Centre d'études et de recherche internationales, le CIRIUM, à l'Université de Montréal.
Et moi, c'est Laura-Julie Perrault, chroniqueuse aux affaires internationales à la presse.
Bienvenue à Sans escale, notre balado sur les affaires internationales
pour les passionnés du monde.
Les élections législatives en Inde. La plus grande démocratie du monde doit renouveler sa chambre basse dans un énorme scrutin étalé sur un mois entre mai et juin. 1 milliard d'électrices et d'électeurs inscrits. Depuis 2014, c'est Narendra Modi, un nationaliste hindou conservateur, qui dirige l'Inde. Grâce à sa popularité et sa capacité à antagoniser la majorité hindoue contre la minorité musulmane pour faire oublier des résultats économiques un peu ternes, il reste le grand favori du scrutin.
In India, I appreciate the country's secular and democratic traditions and its great diversity. I am, however, concerned by increasing restrictions on the civic space, with human rights defenders, journalists, and perceived critics targeted.
We thank the High Commissioner for his global update. We have noted his comments about our forthcoming general elections. However, his concerns in this regard are unwarranted and do not reflect the reality of the largest democracy in the world.
Je poursuis sur les tensions diplomatiques entre l'Inde et le Canada avec Guy Saint-Jacques, ex-ambassadeur canadien.
Expulser les deux tiers de la représentation diplomatique canadienne, moi, je ne me souviens pas de ça. À l'époque de l'Union soviétique, ça nous arrivait d'expulser 6 ou 7 diplomates soviétiques et puis ils nous rendaient l'appareil. Mais là, ça va avoir un impact extraordinaire sur nos opérations, particulièrement du côté de l'immigration. Et tout ça porte un coup assez dur, à mon avis, à la stratégie Indo-Pacifique qui avait été dévoilée en novembre l'an passé par la ministre Jolly.
Bonjour à tous, bienvenue à Sans escale. Aujourd'hui, on s'intéresse à la politique indienne et plus particulièrement aux élections générales en Inde qui arrivent à grands pas. Donc toi, Laura-Julie, tu as quand même des liens particuliers à l'Inde.
Oui, en effet, j'ai passé presque un an bout à bout en Inde. Mon premier voyage avait eu lieu en 2005. Je sortais de l'Afghanistan d'un reportage et j'avais été en Inde et j'avais pas aimé mon premier séjour en Inde. J'étais restée froide devant l'Inde et on m'avait dit que c'était un peu étrange, que j'étais peut-être un peu blasée. Et donc, je m'étais mis à lire de manière frénétique sur l'Inde. Et c'est en lisant des livres que j'ai fait comme « Wow, quel univers intellectuel extraordinaire ». Et mes patrons m'ont demandé à la presse d'y aller en 2006 pendant 4 mois. Et là, j'ai pu me promener dans le pays au complet, puis je suis tombée en amour par-dessus la tête avec l'Inde et surtout avec sa culture intellectuelle qui est tellement riche et à laquelle on a accès à cause de l'anglais. Hein. On n'a pas accès à tout, mais on a accès à une partie de la culture intellectuelle. Et il y avait aussi la culture médiatique qui était très riche, la culture journalistique qui était très riche. Donc, ça a été un coup de foudre. Et après, je suis retournée plusieurs fois, soit pour le travail, mais aussi juste de façon personnelle, parce que je voulais faire le tour de cet immense pays qui est en fait un continent, qui est plusieurs pays en un, d'une certaine manière. Et là, je continue de le suivre. Et les évolutions qui ont été assez majeures dans les dernières années, là, à travers mon travail de journaliste. Mais c'est vrai que c'est un pays que j'aimerais bien retourner si je suis capable d'avoir un visa. Et toi, Laurence, t'es allée tout récemment.
Ben voilà, donc avant l'été dernier, j'étais jamais allée en Inde comme telle. Évidemment, au Moyen-Orient, dans des pays comme l'Oman, où est-ce que j'ai passé du temps, sur la côte de l'Afrique de l'Est. Bien, évidemment, au Canada, on rencontre toujours des communautés qui ont des liens récents ou historiques à l'Inde par leur provenance. J'avais été exposée aux cultures indiennes dans toute leur diversité, sauf que j'avais très hâte d'aller en Inde. Puis j'ai d'ailleurs rencontré notre invité qu'on va vous présenter dans quelques minutes lorsque j'y étais. Cela dit, ce qui m'a... Bon, alors j'ai trouvé, évidemment, dès qu'on entre en Inde, on se dit finalement, j'ai rien vu, c'est tellement vaste en termes d'idéologie, de politique, de paysage, de culture. Donc, on se rend compte de tout ce qu'on ne sait pas quand on va en Inde. Donc, je dirais que c'était mon premier saut dans l'eau pour pouvoir, j'espère, l'explorer davantage plus tard. Mais ce qui m'a particulièrement frappée lorsque j'étais en Inde, c'est qu'on a souvent l'impression au Canada qu'on est pris dans une espèce de vision G7 occidentale du monde lorsqu'on parle de crise internationale, d'économie, des plaques tectoniques géopolitiques. Et là, ça me l'a bien confirmé. Là, d'être en Inde, j'ai été invitée par une espèce de cercle de jeunes leaders avec des leaders du Sud global, mais beaucoup, beaucoup de jeunes leaders politiques indiens. Ça m'a vraiment montré qu'on était dans une chambre d'écho au Canada, puis que le type de discussion géopolitique qui avait lieu chez des personnes émergentes là, dans les partis politiques, dans les institutions, n'avait rien à voir avec la manière dont on en discutait ici au Canada. Alors, ça a été un petit choc intellectuel.
Est-ce que tu as un exemple?
Alors, lorsque j'y étais, là, c'est une anecdote, là, il y avait la rencontre du BRICS et cette expansion du BRICS. Alors, tout le monde, je fais des généralisations, mais au Canada, on en parlait comme cette grande montée du Sud global, alors que l'Inde joue un petit peu dans les deux camps, hôte du G20, mais aussi joueur dans cette expansion du BRICS avec tous les nouveaux joueurs. Mais c'était évident en Inde, chez les personnes à qui je parlais, que tout ça était le résultat d'une rivalité Chine-Inde à l'intérieur du BRICS et que chacun poussait pour des amis et qui allait donner quoi à chacun des joueurs, alors que ce n'était pas représenté du tout comme ça au Canada. C'était vu comme un bloc, cette espèce de masse omnipotente d'économie du Sud global, Sud global entre guillemets, hein, je pense qu'il y a tout à définir dans ça, mais c'était utilisé ce mot-là, Sud global en Inde d'ailleurs, et je dirais même instrumentalisé. Et alors, cette discussion-là sur l'expansion du BRICS, et c'est une parmi tant d'autres, n'avait rien à voir avec la manière dont c'était discuté au Canada.
Intéressant.
On sait depuis samedi que les élections législatives en Inde se dérouleront du 19 avril au 1er juin. On a vraiment une saison électorale dans ce grand pays qui ne compte pas moins de 970 millions d'électeurs. Ce scrutin sera décisif pour déterminer si l'Inde accordera un troisième mandat à Narendra Modi, actuel premier ministre depuis 2014, dont le parti, le BJP, Parti du peuple indien, se présente avec l'espoir de consolider sa position politique nationale au Parlement. Dans cet épisode, nous allons nous demander donc si ces élections auront un impact décisif sur la démocratie indienne et sur sa politique étrangère.
Notre invité.
Pour mieux comprendre l'état de la politique indienne et de sa démocratie, nous recevons aujourd'hui en studio Gilles Vernier, Senior Fellow au Center for Policy Research à New Delhi, et Carl Lovenstein Fellow, ainsi que professeur invité en sciences politiques au Amherst College. Bonjour Gilles, bienvenue à Sans Escale.
Bonjour, merci de votre invitation.
Notre première question à nos invités est toujours la même, on vous a déjà eu comme invité, mais on va vous la reposer encore. Cette passion de l'Inde, elle vient d'où?
C'est une passion qui est assez ancienne, parce que je suis allé en Inde quand j'avais 18 ans pour refaire ma dernière année d'école dans le cadre d'un programme d'échange. Et ça a été évidemment un choc assez massif, ayant quitté ma petite Belgique bourgeoise, tranquille et calme, pour aller dans ce grand sous-continent extrêmement peuplé, riche et diversifié. Et donc, c'est un virus qui a mordu assez rapidement. Et lorsque je suis rentré d'Inde après un an, il était clair qu'il fallait que j'y retourne. Et donc, l'ensemble des choix que j'ai faits par la suite, les choix d'études, les choix de sujets, de mémoire, étaient vraiment centrés sur l'Inde. Et à la première opportunité, après ma diplomation, je suis retourné en Inde pour enseigner le français d'abord, pour commencer une thèse de doctorat ensuite, et puis la recherche, l'enseignement, et devenir un observateur de la vie politique et de la vie démocratique en Inde pendant près de 20 ans. Maintenant, l'Inde, c'est chez moi, c'est là où ma famille habite.
Avez-vous l'impression que c'est le même pays dans lequel vous êtes installé? Vous êtes arrivé en 2005, c'était l'époque du boom économique incroyable en Inde. Il y avait vraiment une espèce de vent de renouveau sur le pays. Là, on est dans une autre période où un gouvernement donc, qui arrive à un troisième mandat, de l'hindouisme, nationalisme hindou. Est-ce que c'est le même pays dans lequel vous avez l'impression que c'est métamorphosé?
Non, effectivement, c'est un pays qui a profondément changé, non seulement d'un point de vue politique, mais où les changements de société ont été extrêmement profonds. Donc, je me souviens, lorsque j'étais en Inde, dans l'état du Gujarat, dans la fin des années 90, il y avait déjà donc la libéralisation de l'économie, l'ouverture de l'économie était déjà enclenchée. Il y avait déjà de l'alternance politique. Le BJP remportait ses premières élections générales à la tête d'une coalition à ce moment-là. Et donc, il y avait vraiment un optimisme assez frappant, assez extraordinaire, qui se ressentait dans la vie publique, mais aussi dans les interactions privées, un peu partout dans le pays. Et donc, c'était très excitant de faire partie de cet environnement de très, 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 très optimiste. Et à partir de l'arrivée des nationalistes hindous au pouvoir, il y a eu un changement de climat assez prononcé, au sens où des lignes de division sociale, politique, économique, qui existaient déjà, bien sûr, ont été accentuées, particulièrement le traitement des minorités, la croissance des inégalités. Un discours nationaliste qui tranchait avec le discours nationaliste indien qui présenter l'Inde comme un grand pays, comme une grande démocratie plurielle, laïque. Et donc, ces idées-là ont été graduellement mises de côté au bénéfice d'un nationalisme ethnique, religieux, beaucoup plus agressif et calqué sur une identité imaginée d'une communauté hindoue qui représente, certes, la majorité de la population, mais qui elle-même est extrêmement hétérogène. Et donc, du coup, le changement de climat est très palpable. Et lorsque on observe la vie politique un peu au quotidien, on voit bien la montée des violences, la montée des tensions, l'approfondissement des inégalités, le contraste entre un discours de puissance émergente et une réalité économique plus complexe. Et donc ça pose question quant à la trajectoire démocratique de l'Inde de manière générale.
Aujourd'hui, on est le 21 mars 2024, donc les élections vont commencer dans moins d'un mois. Aux yeux des Indiens, quelle est la grande question de ces élections? Et quel est le grand enjeu ou c'est plusieurs enjeux qui sont mis de l'avant?
La grande question qui semble agiter beaucoup de monde à ce jour, c'est combien de sièges supplémentaires le BJP va-t-il remporter. C'est une situation pas nécessairement inédite, mais particulière, où très peu de monde s'attendent à ce que le BJP ne conserve pas sa majorité. Sur les sites de paris en ligne, l'essentiel des paris porte sur le nombre de sièges supplémentaires, mais il n'y a pas vraiment la possibilité de parier sur une défaite du BJP. Et donc, pour l'instant, la question à court terme, c'est quelle sera l'ampleur de la victoire ou, à contrario, quelle sera l'ampleur de la défaite du parti du Congrès et l'opposition. Mais il me semble que les enjeux liés à ces élections dépassent de très loin la simple question des résultats, mais que les enjeux portent réellement sur la trajectoire démocratique de l'Inde. Alors, on a tendance à penser que tout change à partir de 2014. En fait, il y a beaucoup de continuité et les processus que l'on voit de déclin démocratique, d'une certaine manière, étaient déjà enclenchés avant l'arrivée des nationalistes au pouvoir en 2014, mais les choses se sont exacerbées ou accélérées ensuite. Mais depuis 2014, on observe des attaques contre les libertés civiles, une réduction des libertés civiles, une montée de la violence, une diffusion de la violence intercommunautaire en dehors des villes, dans les villages, l'expansion d'une rhétorique agressive dans l'espace public, dans les réseaux sociaux qui se sont considérablement développés sur la période. Et donc, un certain nombre d'organisations qui mesurent la qualité de la démocratie en Inde s'accordent tous pour dire que l'Inde est sur une trajectoire de déclin. Les libertés civiles, la violence, l'usage partisan des institutions pour brimer à la fois l'opposition, les leaders d'opposition, mais aussi la société civile, les universitaires, la presse, les journalistes. L'Inde est un des pays les plus dangereux pour exercer le métier de journaliste. Ils sont 161e sur 180 dans le monde. Et donc, tous ces indicateurs, d'une certaine manière, sont dans le rouge et continuent à voir l'Inde décliner. Et elle le fait de manière extrêmement tangible.
Ce matin, en me levant, donc on est le 21 mars 2024, j'ai lu un article de votre CRU dans la presse et vous citiez des statistiques qui parlent en fait que la majorité des Indiens en ce moment sont plutôt favorables à même un régime autoritaire. Qu'est-ce qui explique ça? Je veux dire, justement, les Indiens étaient tellement fiers de leur démocratie, la plus grande démocratie au monde, même si ça a toujours été une démocratie avec quelques défauts, disons-le. Mais qu'est-ce qui explique que tout à coup, la population elle-même est derrière cette mutation-là dont vous nous parlez?
Je pense que d'abord, il y a une tendance un peu globale d'appétence croissante pour des régimes forts ou pour des régimes à leader fort, pour des formes de pouvoir qui soient concentrées et incarnées en réaction au désenchantement ou à la mésatisfaction contre la démocratie libérale, contre la démocratie représentative. Et donc, il y a une aspiration à des formes de pouvoir fort que l'on observe dans bien des pays de par le monde. Alors, en Inde, comme vous le dites, effectivement, c'est particulièrement marqué. Nous avons cette enquête de Pew réalisée en mai dernier qui montre que près de 70% de la population aspire à un régime, favorise l'autoritarisme et même voit de manière favorable la mise en place d'un régime militaire. Ce qui est assez contradictoire. S'ils expriment une satisfaction pour un régime civil autoritaire, pourquoi aspirer à un régime militaire? Donc, il y a peut-être des questions de méthode à poser sur ce genre d'enquête. Mais cela révèle néanmoins il y a une réelle appétence pour la forme de pouvoir que Narendra Modi incarne. Donc, un pouvoir hyper concentré, hyper personnalisé, de type providentiel, où l'action de l'État est conçue et présentée comme le produit de la générosité ou les capacités, les qualités du leader. Une grande partie de la population répond de manière positive à cette idée. Cela étant dit, Narendra Modi, qui parmi les grands dirigeants dans le monde a les taux de popularité les plus élevés, 75% d'opinion favorable, je pense que beaucoup de leaders ne rêvent même pas de ce genre de chiffres.
Là, il y a Poutine qui vient d'avoir 87% avec l'élection, il y a quelques jours de ça.
Dans un contexte certes différent. Mais les chiffres que l'on voit, le soutien pour l'autoritarisme ou la popularité de Narendra Modi ne se traduisent pas nécessairement en des scores électoraux équivalents pour le BJP. Je pense que c'est utile de se rappeler que dans un système majoritaire, first past the post, comme en Inde, on construit des majorités à partir de minorités de voix. Donc le BJP en 2019 remporte 55% des sièges avec 37% des voix. Et donc, dans ces systèmes-là...
Exactement comme au Canada. On a exactement les mêmes problèmes. Ouais.
Et donc, dans ces systèmes-là, il faut diviser l'électorat pour produire des majorités. Et c'est pour ça que le système lui-même encourage les partis politiques à s'engager dans des politiques de division, puisque c'est la fragmentation de l'espace politique, la fragmentation de l'électorat qui permet la conversion de minorités de voix en majorité de sièges.
Parlons pour un moment de l'opposition. Qu'est-ce qui explique l'affaiblissement de l'opposition face au parti de Narendra Modi, qui a quand même le Congrès indien, par exemple, qui a quand même une place historique en Inde en termes de son évolution politique?
C'est un sujet en soi et on pourrait faire plusieurs podcasts uniquement sur la question du parti du Congrès et de l'opposition. Pour simplifier un peu les choses, l'opposition indienne est extrêmement fragmentée. Il y a des centaines et des centaines de partis politiques en Inde. L'Inde est un grand pays fédéral et donc il y a un grand nombre de partis régionaux au pouvoir dans leurs États respectifs, mais ne représentant pas nécessairement un poids important dans le reste du pays. Au cœur ou au
Juste
centre...
Juste pour préciser, Gilles, ouais. Parce que dans le cas de l'Inde, on a quand même une bonne compréhension des systèmes parlementaires par rapport au Canada, parce qu'il y a beaucoup de similitudes, si je ne me trompe pas. Donc, un parti qui va être là au niveau régional va souvent présenter également, exister au niveau fédéral également, le même parti?
Oui, le même parti va présenter des candidats pour l'ensemble des élections. Et la norme en Inde, depuis la fin des années 70, c'est d'avoir des gouvernements de coalition auxquels des gouvernements régionaux participent avec un des deux grands partis nationaux, soit le BJP ou le Congrès. Aujourd'hui, le Congrès, qui est la pièce centrale de l'opposition, est à la fois trop faible que pour porter un défi vraiment, pour représenter un défi au BJP, et à la fois trop important encore que pour permettre à qui que ce soit d'autre de le faire. Depuis 2014, donc il y a un certain nombre d'États en Inde où le Congrès et le BJP sont face à face, et puis il y a un grand nombre d'États où des partis régionaux existent. Dans les États où le Congrès et le BJP s'affrontent, depuis 2014, le BJP remporte les élections dans 90% des cas au niveau des sièges. Et donc là, il y a une faiblesse structurelle du Parti du Congrès qui n'arrive pas à rivaliser avec le BJP. Mais en même temps, le Congrès continue à représenter à peu près un cinquième des voix. Et donc, cela ne permet pas à une coalition alternative de s'ériger en opposition forte et cohésive par rapport au BJP. Par ailleurs, il y a des problèmes plus profonds et plus sérieux qui sont des problèmes d'imagination ou des problèmes même pas de stratégie de campagne, mais vraiment de conception d'un récit national alternatif à celui que le BJP propose. Ce que le BJP, en tant que parti nationaliste hindou, propose, c'est le mélange d'idées qui sont politiquement extrêmement puissantes. C'est le nationalisme, c'est le tout sécuritaire, mais c'est aussi l'inclusion, c'est aussi la transformation des politiques sociales et de redistribution, donc différentes formes de protection, la protection du territoire, la protection des pauvres, la protection des femmes par travers de politiques publiques qui les ciblent très, très spécifiquement. Et tout cela est enrobé, tout cela est emballé dans un grand discours de résurgence ou de renaissance d'une civilisation hindoue qui, pour nombre d'électeurs, est extrêmement attrayante.
Et pourquoi c'est aussi attrayant? Je me rappelle d'avoir assisté à un discours de Sonia Gandhi dans lequel c'était Times of India qui avait organisé le forum. La question, c'était, est-ce que l'Inde sera une superpuissance? Elle avait dit, mais pourquoi on voudrait être une superpuissance? Ça vient avec toutes sortes de problèmes, d'avoir à se porter à la défense de tel pays, d'avoir une grande armée, alors que ce qui nous intéresse, c'est de développer le pays et d'améliorer le sort de nos concitoyens. Ça, c'était vraiment la vision du Congrès, je pense. Et là, le BJP propose complètement le contraire. Pourquoi c'est aussi attrayant?
C'est attrayant parce que l'idée que l'Inde, finalement, se donne les attributs des grandes puissances, joue un rôle plus important sur la scène internationale. Il lie cette question à la question de l'identité et de la fierté nationale. Pendant des décennies, l'Inde a joué un rôle, a été plutôt en retrait de la vie internationale. Elle était concentrée sur la préservation de son autonomie stratégique, sur la préservation de son indépendance. Elle a participé à la définition du non-alignement, qui consistait à ne pas prendre parti sur les grandes questions globales, notamment dans le cadre de la guerre froide. Et donc, elle a conçu sa libéralisation comme un développement de son marché intérieur plutôt que d'une intégration de l'Inde dans l'économie mondiale. Et donc, pendant très longtemps, c'était un pays qui, d'une certaine manière, était refermé ou centré sur lui-même. Alors, pas fermé, il y a toujours des ouvertures et des échanges, mais plutôt concentré sur lui-même. Le BJP, les nationalistes hindous, cultivent une vision diamétralement opposée où, pour eux, l'idée de l'Inde, ce n'est pas une grande république laïque et plurielle, mais c'est une grande puissance hindoue qui s'affirme, qui a confiance en elle, qui est sûre d'elle et qui se projette qui projette sa puissance en dehors de ses frontières. Et donc ça passe par cette hyperactivité, par cette participation croissante de l'Inde dans la vie internationale, mais aussi ça se traduit en des formes de pouvoir politique plus agressives, plus Et donc, une partie de la population trouve cela attrayant, puisque c'est lié avec, avec la cultivation de cette nouvelle forme d'identité nationale. Moi, je suis très frappé quand je visite des villages dans l'ouest ou l'est de l'Uttar Pradesh, dans des régions vraiment rurales, avec de profonds problèmes économiques, où il n'y a pas d'emploi, où l'agriculture arrive à peine au niveau de la subsistance, et les discussions politiques tournent autour de l'Ukraine, tournent autour de l'ouverture d'un temple hindou par le Premier ministre à Abu Dhabi, et les lecteurs en parlent, beaucoup d'électeurs en parlent avec beaucoup de fierté. L'image de l'Inde n'a jamais été aussi élevée, et c'est assez grâce au Premier ministre. Ce que Narendra Modi, comme figure politique populiste, fait également, c'est de se créditer à lui-même tous ses succès. Donc, tout lui est attribué. Il n'y a pas de place pour un partage des responsabilités ou un partage du crédit sur les performances de l'Inde. Et donc, cela crée un sentiment de connexion assez fort et qui permet de comprendre pourquoi sa popularité est même bien plus importante que la popularité de son propre parti.
Donc, le nationalisme hindou comme idéologie va sans dire un discours assez inquiétant pour les autres groupes religieux dans le pays. Des minorités dans le cas de l'Inde, mais des populations qui sont les plus grandes au monde, si on regarde le nombre de musulmans absolus. Je pense que vous avez dit hier en conférence au Cerium, Gilles, les musulmans de l'Inde, c'est la troisième plus grande communauté après
l'Indonésie et le Pakistan.
Donc, pouvez-vous un peu nous expliquer comment a évolué le discours de Narendra Modi envers les minorités, et peut-être en portant aussi une attention particulière à la question sikh, puisque nous, au Canada, ça touche beaucoup aussi la nature de nos relations, étant donné la prévalence des communautés sikhs qui sont canadiennes.
Alors, pour comprendre la situation et la condition des musulmans en Inde, il faut descendre d'un cran, il faut descendre du cran national. Narendra Modi, dans sa carrière, a tenu beaucoup de discours à caractère islamophobe, beaucoup de discours agressifs contre les musulmans, lorsqu'il était ministre en chef de l'État du Gujarat en particulier. Mais depuis son accession au pouvoir en tant que Premier ministre en 2014, il a beaucoup lissé ou polissé son langage et son discours. Et de fait, lorsqu'on écoute Narendra Modi, et ça le distingue d'un certain nombre de grands leaders populistes d'extrême droite de par le monde, son discours est très lisse. Il parle de démocratie, il parle d'harmonie, il parle de puissance, il évite assez soigneusement de s'engager dans des discours de division ou islamophobes, même si de temps en temps, il y a un peu un slip of the tongue. Par contre, au niveau régional et au niveau local, c'est là que les choses ont changé. Au niveau local d'abord, après 2014, on a vu une montée impressionnante de la violence politique sous la forme du vigilantisme. Toute une série d'organisations, de milices radicales hindoues ont lancé des campagnes de mobilisation qui se traduisaient en violence, une campagne de protection de la vache, une campagne de protection des femmes hindoues en pourchassant les hommes musulmans accusés ou suspectés de chercher à convertir des femmes hindoues en les séduisant, ce qu'ils appellent le « love jihad ».
D'ailleurs, vous avez mentionné ce terme et je dois dire que moi, je feuilletais les journaux lorsque j'étais à Delhi, puis je voyais toutes ces espèces d'histoires qui nourrissait là, cette islamophobie avec le terme love jihad, utilisé vraiment dans les journaux même.
Oui, c'est le succès des extrêmes droites de par le monde de diffuser leur vocabulaire dans le mainstream. Et donc, on parle aujourd'hui de manière complètement banalisée de lynchage, de love jihad. Et d'une certaine manière, ça choque de moins en moins. C'est les formes de violence qui sont devenues normalisées.
Un mainstreaming de la radicalité.
Là. Exactement. Et donc, à partir de 2014, on voit ces formes de violence qui augmentent. Et une fois que le BJP parvient au pouvoir à l'échelle régionale, on les voit introduire toute une série de législations qui font entrer ces campagnes dans la loi ou qui donnent une couverture légale à ces campagnes. Il y a 10 États dirigés par le BJP en Inde aujourd'hui qui interdisent les conversions de l'hindouisme vers l'islam et qui reconnaissent le mariage comme une méthode de conversion. Et donc, l'objet de la loi est d'empêcher les conversions, mais l'effet de la loi est de criminaliser les relations interreligieuses et de donner aux magistrats locaux, à la police locale et aux milices hindoues locales le pouvoir et l'autorisation de passer à l'action, d'agir pour prévenir des unions ou des relations de type amoureuse entre hindous et musulmans. Et donc là, il y a une instrumentalisation de la violence, pas simplement à des fins électorales, mais à des fins politiques beaucoup plus profondes et beaucoup plus pernicieuses. Sous le coup de la lutte contre la criminalité, l'État de l'Uttar Pradesh, par exemple, le grand État le plus peuplé en Inde dans le Nord, a donné une couverture légale à une grande campagne d'assassinat extrajudiciaire qui vise des criminels suspectés qui, pour l'essentiel, soit appartiennent aux minorités ou alors ou sont affiliés avec des partis d'opposition. Et donc, on voit un usage de la loi, un usage des institutions à des fins partisanes, mais à un usage qui va au-delà de l'instrumentalisation à des fins électorales. Tout cela s'accompagne d'une croissance de pratiques illibérales ou, disons-le, de pratiques autoritaires. L'usage systématique des bulldozers, par exemple, pour détruire les résidences et les échoppes de musulmans suspectés de participer à des manifestations. Et l'Inde a connu ces dernières années de grands mouvements de protestataires, de grands mouvements de manifestations. L'usage de lois sécuritaires pour arrêter des universitaires, des étudiants, des journalistes, toutes formes d'opposants. On voit vraiment se répéter et s'intensifier ce genre de pratiques à qui l'on donne une couverture légale en utilisant donc l'instrument de la loi, mais en étendant en fait le champ d'intervention de ces instruments. Encore un exemple, le gouvernement du BJP a fait passer un amendement à une loi sécuritaire qui lui permet de déclarer des individus comme étant terroristes et non pas des individus comme appartenant à des organisations classées comme terroristes, ce qui permet de supprimer l'habeas corpus, ce qui permet de supprimer les droits de la défense, ce qui permet au gouvernement et à la police de détenir des individus de manière indéfinie, enfin sans avoir nécessairement à avoir des magistrats. Il y a un étudiant, Omar Khalid, qui s'était distingué pendant un mouvement de protestation après la dissolution de l'État du Cachemire, qui est en prison maintenant depuis plus de 5 ans. Il n'a pas encore vu un magistrat, il n'a pas encore vu un juge, et on n'imagine pas le voir sortir de sitôt. Et donc, c'est là que les choses sont réellement inquiétantes, parce que ces changements créent non seulement des changements d'attitude et d'opinion, mais changent aussi, affectent le fonctionnement du système politique. Ça transforme l'idée même le sens même de l'état de droit. Lorsque la loi et l'état devient arbitraire, personnalisé et autorise des pratiques discriminantes. Mmh.
C'est intéressant de voir que ça se fait autant au niveau des États que ça se fait au niveau central, donc sur les deux. Mais oui, est-ce que justement ça se fait surtout au niveau des États pour garder une espèce de vernis pour Narendra Modi? Donc, on le laisse un petit peu, comme on pourrait dire, arm's length, donc à une distance de bras de la pire des répressions?
Absolument. Il y a une division du travail qui a toujours existé parmi les nationalistes hindous. Avant Narendra Modi, il y avait toujours plusieurs figures politiques importantes au sein du parti, certaines plus hawkish, certaines plus radicales, d'autres plus conciliantes et donc un peu moins polarisantes. Ils ont toujours joué sur ces deux plans. La stratégie a toujours été de combiner à la fois des pratiques qui permettent d'élargir les soutiens, y compris à des électeurs qui ne partagent pas nécessairement les idées nationalistes qu'ils portent, Et en même temps, on continuellement envoyait des signaux à la base pour répondre à leurs attentes et puis pour continuer à cultiver leur soutien. Donc, ils jouent sur les deux tableaux. L'Inde, aujourd'hui, dans le cadre du G20, s'est présentée comme la mère de la démocratie. Ils ont mobilisé des éléments d'archéologie, des textes anciens pour expliquer que l'Inde était une démocratie bien avant la Grèce et bien avant tout le monde. Alors, qui est une des idées que les historiens indiens ne partagent pas particulièrement.
Il y a une instrumentalisation de l'histoire pour montrer que l'Inde est la mère de la démocratie, mais est-ce qu'on peut se rassurer au moins qu'on parle encore de sauvegarder la démocratie indienne?
C'est une marque des autocraties électorales que de préserver une façade démocratique. C'est nécessaire à la fois vis-à-vis de l'extérieur, mais vis-à-vis de l'intérieur aussi. C'est une condition de leur légitimité. Il y a deux chercheurs, Nick Cheeseman et Brian Klass, qui ont publié un excellent livre, How to Rig an Election, donc comment fausser une élection, et qui explique que de par le monde, il n'y a jamais eu autant d'élections et jamais aussi peu de démocratie. Et donc l'Inde rentre bien dans ce cadre-là, où il y a des élections qui, au niveau régional, restent très compétitives. Le BJP perd des élections régionales, qui le sont moins au niveau national, du fait de la position dominante du BJP et la fragmentation de l'opposition, mais qui s'accompagne d'un déclin démocratique très prononcé, à la fois entre les élections, donc un manque d'adhésion aux normes démocratiques dans l'exercice du pouvoir, mais aussi une baisse du caractère démocratique de la compétition politique. Le BJP aujourd'hui concentre l'essentiel des ressources financières données aux partis politiques. Ils sont 5 fois plus riches au moins que le parti du Congrès. Ils sont plus riches seuls que le reste de la compétition politique assemblée. Ils instrumentalisent les institutions pour créer des complications légales à l'opposition. Les comptes du Parti du Congrès ont été gelés il y a 2 mois. Alors, ils ont été réactivés depuis, mais ça a empêché le Congrès de faire campagne pendant plusieurs semaines. Ils utilisent le fisc pour poursuivre des membres de l'opposition. Certains d'entre eux sont actuellement en prison et donc ne peuvent pas faire campagne. Et donc, les exemples s'accumulent. Et quand on les met bout à bout, cela donne une image d'une démocratie. C'est au-delà de la dysfonction des régimes habituels, des régimes démocratiques. C'est vraiment une institutionnalisation, une normalisation de pratiques autoritaires qui rendent assez difficile de conserver à l'Inde ce qualificatif de plus grande démocratie au monde. Après tout, les élections en Russie, ce sont des élections aussi, ce ne sont pas des élections libres et égales. Alors évidemment, on est à une échelle très, très différente. Mais on voit bien que la capacité de l'Inde à produire une compétition politique libre et égale est largement remise en question aujourd'hui.
Ça me rappelle aussi le contexte turc, où les élections sont encore quand même réelles, mais tellement manipulées dans comment on arrive à l'élection, que c'est difficile de voir ça comme des élections équitables et justes. On va profiter de votre passage ici pour essayer de comprendre, c'est pour une énigme pour beaucoup d'entre nous, la relation canado-indienne en ce moment. On a comme l'impression... Justin Trudeau a été élu en 2015, tout juste un an après que Narendra Modi devienne premier ministre de l'Inde. Et on a comme l'impression qu'il y a comme une espèce d'allergie de l'Inde envers le Canada en ce moment. Comment vous expliquez ça, l'état des relations entre les deux pays? Est-ce que ça fait partie d'une dynamique en Inde? Est-ce que le Canada est devenu une espèce de bouc émissaire ou il y a autre chose de plus profond là-dedans?
Alors, il y a quelque chose d'un petit peu étonnant quand on regarde les choses de l'extérieur, puisque la politique étrangère de l'Inde, ça consiste à être l'ami de tout le monde et l'allié de personne. L'Inde en nourrit des liens forts avec les États-Unis, avec la Russie, avec l'Union européenne, avec l'Iran, avec les pays africains, avec l'Australie, le Japon. Alors, la Chine, pas vraiment, mais ça, c'est le grand confrontation. Mais alors, le Canada, d'une certaine manière, est un peu tombé de côté. Il me semble que les relations entre l'Inde et le Canada s'étaient déjà détériorées avant même l'affaire de l'assassinat de ce militant sikh dans la région de Vancouver. Non, la question sikh et de la migration sikh au Canada a toujours été une question assez épineuse, puisque bon nombre de sikhs militants participant au mouvement khalistanais dans les années 80-90, après la résolution du conflit, ont immigré au Canada et ont cultivé d'une certaine manière une certaine nostalgie pour ce mouvement et pour l'idée de création d'un État indépendant, autonome, sikh. Et donc, ça a toujours été un irritant dans les relations entre l'Inde et le Canada. Alors évidemment, procéder à un assassinat d'un citoyen canadien sur le territoire canadien, c'est plus qu'un saut qualitatif. Il y a un vrai tournant qui s'opère et qui, à mon sens, peut s'expliquer au moins de deux manières. La première est qu'en assassinant un opposant politique à l'étranger, l'Inde acquiert un attribut de grande puissance. Et d'ailleurs, cela a été dit en Inde, voilà, mais c'est quelque chose que les grandes puissances font. Ça permet à l'Inde de dénoncer l'hypocrisie des puissances occidentales qui, eux, pratiquent ce genre d'assassinat de par le passé. Mais aussi, il y a un élément domestique qui peut-être échappe à l'attention des Canadiens, qui consiste à dire que l'État du Punjab n'est pas dirigé par le BJP, est dirigé par un parti autrement au pouvoir à Delhi. Et le BJP essaye, tant bien que mal, de présenter ce parti comme étant une source de division, comme cherchant à réanimer le conflit khalistanais. Et donc, d'une certaine manière, le BJP cherche à raviver un peu les cendres de ce conflit pour discréditer le parti au pouvoir au Punjab. Et donc, comme la question du Khalistan est morte au Punjab, il n'y a absolument plus personne pour soutenir ou défendre cette idée. Tous ceux qui la soutenaient encore ont migré au Canada ou au Royaume-Uni. Et donc, du coup, ils sont allés au Canada pour aller chercher une victime.
Pour rappeler que ça existe, finalement.
Pour rappeler que ça existe.
Même si, on va se le dire, je pense que cette idée-là est quand même marginale, même au sein des communautés canadiennes. Là. C'est-à-dire que c'est pas mainstream du tout.
Absolument. Et donc, l'idée que cet individu représentait un danger pour la souveraineté indienne, pour la sécurité intérieure indienne, est une affabulation complète. L'idée que même si cet individu, effectivement, il y avait des menaces qui avaient été faites contre des membres du personnel diplomatique indien au Canada, mais la réaction à avoir, c'est de s'adresser aux autorités locales et d'en faire une affaire de police, au fond, puisque le Canada est responsable pour la sécurité des missions diplomatiques sur son territoire. Rien n'autorise l'Inde ou quelque autre pays que ce soit d'ailleurs à engager un assassin trouvé sur Internet pour aller tuer un opposant qui, objectivement, ne représentait aucune menace.
Mais sachant ces dynamiques politiques-là, à la fois nationales en Inde et internationales, dans la manière dont l'Inde veut se représenter son pouvoir, quelle est la réaction à adopter pour à la fois dénoncer et maintenir les relations diplomatiques? Est-ce qu'il y a une bonne manière de réagir?
J'ai bien peur qu'il n'y ait pas de bonne réaction dans une situation comme celle-ci. Rendre la question publique et faire état de mécontentement vis-à-vis de l'Inde a donné à Narendra Modi et au gouvernement indien l'opportunité de dénoncer l'hypocrisie des Occidentaux et de dire à leur électorat, bah, regardez ce que l'Inde peut faire aujourd'hui, c'est un attribut de puissance. Et si jamais le Canada décidait d'essayer de mettre un peu l'affaire de côté, eh bien, ça pourrait être présenté comme une grande victoire de l'Inde qui a pu imposer sa façon de faire. D'une certaine manière, c'est une méthode d'affirmation de soi sur la scène internationale, de dire au monde et d'envoyer le signal, nous aussi, on peut briser les normes diplomatiques internationales. C'est une manière d'exprimer un certain degré de confiance en elle que l'Inde a aujourd'hui et qui passe par ce genre de pratiques assez agressives. Mais il me semble que du point de vue canadien, il n'y a pas vraiment de bonne méthode.
Le scénario, où est-ce qu'on en sort gagnant?
Non.
Et justement, on a mis... Quand on a... le gouvernement actuel au Canada a mis de l'avant une stratégie indo-pacifique. Ils ont mis l'Inde au cœur, en fait, un peu de pour contrecarrer la relation qui est très difficile entre le Canada et la Chine aussi, d'améliorer les relations avec l'Inde. Mais en ce moment, ça semble être une impasse. Est-ce que c'était une erreur?
Non, enfin, c'est pas à moi de dire si c'était une erreur ou pas.
On voit que la majorité des pays occidentaux se sont retournés vers l'Inde avec l'effroi avec la Chine dans leur stratégie, non?
Oui, bien sûr. L'Inde, aujourd'hui, est le pays le plus courtisé au monde. Et Narendra Modi est le leader politique probablement le plus courtisé au monde dans le cadre de cette nouvelle bipolarisation du monde entre la Chine, ses alliés et ses amis, et le reste du monde. Cela dit, la position de l'Inde et la doctrine d'affaires étrangères de l'Inde en font un partenaire, si pas peu fiable, imprévisible. Puisque l'Inde, comme je le disais, puisque l'Inde cherche à être l'ami de tous, mais l'allié de personne. Donc l'Inde refuse toujours d'entrer dans des logiques d'alliance. Ce qui signifie qu'elle veut toujours conserver son autonomie stratégique. Et donc, l'Inde multiplie les partenariats, multiplie les forums au sein desquels des pays comme le Canada peuvent également participer, mais ne cherche pas à rendre toute cette région et tous des acteurs cohésifs. L'Inde cherche à maintenir un certain éparpillement de l'influence dans cette région, pour augmenter sa propre influence et pour éviter à rentrer dans une logique d'alliance qui devienne contraignante. Et donc, dans le cadre du Quad, avec le Japon, l'Australie et les États-Unis, l'Inde a des dialogues assez approfondis, mais elle participe aussi à une tripartite avec la France et Djibouti. Elle a des relations bilatérales ensuite avec un grand nombre de pays, dont le Canada. Et c'est une espèce de jeu d'équilibriste que l'Inde poursuit et qui vise à ce que l'influence sur la scène mondiale soit la plus diffuse possible. Plus il y a de pôles, au mieux, puisque cela permet d'éviter l'émergence d'une hyperpuissance quelle qu'elle soit. Et cela permet à l'Inde d'augmenter son statut en même temps. C'est ce que l'Inde aujourd'hui appelle le plurilatéralisme, qui n'est pas le multilatéralisme, puisque ça consiste à diffuser et à fragmenter l'influence sur la scène internationale pour permettre à l'Inde, en somme, de faire ce qu'elle veut, avec qui elle veut, quand elle veut, et à chercher et à développer des partenariats souvent entre des pays qui ont des intérêts contraires. Donc, les États-Unis courtisent l'Inde, qui contrevient au régime de sanctions internationales contre la Russie en raffinant son pétrole et en le vendant sur les marchés internationaux. Si cela avait été une autre puissance ou une autre économie que l'Inde, elle aurait fait l'objet de sanctions elle-même. Mais comme c'est l'Inde et que tout le monde en a besoin et que par ailleurs c'est un énorme marché, l'Inde aujourd'hui est le premier importateur d'armes dans le monde, du coup ça passe, on laisse passer. Et l'Inde joue sur ses ambiguïtés, elle joue sur ce statut de puissance, de partenaire nécessaire pour poursuivre une politique d'intérêt bien compris qui l'enserre parfois dans des contradictions. L'Inde refuse de s'immiscer dans des accords contraignants, qu'il s'agisse des négociations commerciales, des négociations climatiques. Et donc, cette volonté de jouer un peu sur tous les tableaux, de manger un peu à tous les râteliers en même temps, peut aussi affaiblir sa position. Mais le fait est qu'aujourd'hui, elle y trouve davantage son intérêt que dans des logiques d'alliance qui poseraient des contraintes sur le pays. Un partenariat est très bien puisque c'est ponctuel, c'est sur un objet particulier, c'est limité dans le temps, alors que quand on rentre dans des logiques d'alliance, il y a un aspect normatif, il faut adhérer à certaines normes, et ça c'est quelque chose que l'Inde refuse.
Donc Gilles Vernier, je pense qu'on pourrait vous poser des questions toute la journée et certes vous auriez des réponses, mais on doit maintenant mettre fin à cet entretien et vous remercier pour cette discussion, mais aussi pour votre résidence, la semaine que vous passez au Cerium, votre conférence et votre présence auprès de notre communauté. Merci beaucoup.
Avec grand plaisir.
Quelle conversation passionnante, mais inquiétante. C'est le moins qu'on puisse dire. Puis c'était intéressant d'entendre notre invité décortiquer un peu, en fait, les processus de la dérive autoritaire que l'Inde est en train de traverser en ce moment. Ça m'a rappelé aussi, c'est ça, on avait, je ne sais pas pour toi, Laurence, mais moi, j'avais en tête toutes sortes d'autres pays. Je pensais notamment... au processus qu'utilisent les républicains aux États-Unis, d'être au niveau des États très forts sur la question de l'avortement, notamment, pour faire passer des lois très liberticides dans les États, alors qu'au fédéral, il se passe autre chose. Mais on entend cette même utilisation, en fait, du processus, du système en place, mais qui devient une perversion, en fait, du même système. C'est excessivement inquiétant, en sachant que c'est le pays le plus populeux de la planète.
À mon avis, c'est important de continuer à consulter des experts comme Gilles Vernier, dont il y en a peu, sur la complexité des dynamiques politiques en Inde. Puis ça ne remet jamais en question la nécessité de la diplomatie avec des pays comme ça. Mais il faut y aller avec un discernement et un réalisme par rapport au moment politique que l'Inde traverse, j'espère traverse. Parce que c'est vrai qu'au... Même en termes de lien entre les populations, il n'y a pas plus proche en termes de lien entre les populations que l'Inde et le Canada, que ce soit en termes d'étudiants internationaux au Canada. C'est vraiment une communauté importante, de liens historiques de beaucoup de Canadiens à l'Inde par les migrations. Donc, c'est du non négociable. On doit avoir des relations avec l'Inde, mais c'est tout un travail... dans toutes ces tensions, à travers toutes ces tensions politiques.
Oui, ça va prendre vraiment beaucoup de doigté pour naviguer dans ces eaux-là, surtout considérant, comme tu dis, notre immense diaspora indienne qui est ici au Canada et qui peut être, d'une certaine manière aussi, notre lien avec le pays. Je pense que ça, c'est peut-être une des forces qu'on a, d'avoir une telle diversité aussi au sein de cette diaspora-là.
Absolument.
Pour aller plus loin.
On se tourne maintenant vers notre réalisatrice Caroline Delamotte qui va faire notre chronique pour aller plus loin. Caro, qu'est-ce que tu as à nous proposer aujourd'hui?
Alors, Laura Julie, je cherchais un angle pour aller plus loin sur le thème des élections en Inde et tu connais mon intérêt pour les petites histoires du quotidien qui en disent long sur le pouls d'une société. En lisant un article dans le Courrier international, j'ai trouvé ma perle. Le titre est vendeur. Polémique en Inde, une lionne hindoue et un lion musulman hérissent le poil des nationalistes.
C'est parfait, ça.
Exactement. Alors, je te raconte cette polémique qui date du mois dernier. On a un lion, Akbar, du nom de l'empereur moghol et musulman qui a régné sur une grande partie du sous-continent au XVIe siècle et qui s'est retrouvé dans un enclos avec une lionne nommée Sita en référence à la déesse hindoue, qui est un avatar de Lakshmi. Alors, le VHP, qui est une organisation d'extrême droite hindoue, a déposé un recours devant la Haute Cour de Calcutta à la mi-février, justement, pour contester la décision du département forestier de l'État du Bengale occidental de maintenir Akbar et Sita dans le même enclos. Trauma. Donc, dans sa plainte, le VHP, donc le parti d'extrême droite, affirme que loger Sita avec Akbar serait une insulte à la religion hindoue et blesserait les sentiments des hindous. Je suis sûre qu'ils ont tous parlé pendant toute la semaine. Il faut savoir que le VHP, qui est affilié au BJP du Premier ministre Modi, a demandé que le nom de la lionne soit changé. Ils sont très, très contrôlants là-dessus. Et donc, pour rappel, la déesse Sita, elle est vénérée comme l'incarnation de la vertu, de la pureté et du dévouement, et est souvent représentée comme l'épouse idéale, subissant les épreuves et les tribulations avec grâce et fermeté. Alors que l'empereur Akbar, auquel le lion doit son nom, lui, il est largement considéré comme un défenseur de la laïcité. Donc, ça pourrait être correct. Mais comme tous les empereurs de la dynastie moghole, Akbar est également une figure honni par les nationalistes hindous. Ils ne veulent rien savoir de la communauté musulmane et des références musulmanes. Donc, après le dépôt de la pétition, les lions ont été déplacés dans des enclos séparés, malheureusement. Apparemment aussi pour s'assurer qu'un lion musulman ne s'accouple pas avec une lionne hindoue, parce que, oulala, il ne faut pas se mélanger. Mais la controverse ne s'arrête pas là. Oh que non! Car il semblerait que quand les lions sont arrivés au Bengale occidental, qui, rappelons-le, en plus est un état dirigé par un parti d'opposition, le lion Akbar s'appelait initialement Ram, qui est en fait une divinité hindoue et le mari de Sita. Et donc, le lion aurait été rebaptisé par les autorités du Bengale occidental, histoire de créer un petit peu de tension ou de chaos. Et évidemment, le Bengale occidental dément complètement cette information, mais ça rajoute énormément au scandale. Donc, bref, justement, la pression était telle que l'État du Bengale occidental a finalement suspendu son plus haut responsable forestier, parce qu'il fallait bien trouver un coupable, pour avoir enregistré les deux noms nommés Sita et Akbar. Et la haute cour de Calcutta a mis en garde contre le fait de donner aux animaux de zoo le nom de divinité et de personnalité vénérée était vraiment pas une bonne idée. Mais pourtant, c'est très surprenant parce que les zoos l'ont fait depuis des décennies sans que ça pose aucun problème. Et les archives montrent que des dizaines de félins dans les zoos indiens ont partagé leur nom avec des personnalités religieuses et mythologiques telles que Brahma, Shiva, Krishna ou encore Ganesh. Même le Dalai Lama partage son nom avec un léopard des neiges que le zoo de Darjeeling a nommé Tenzin en 2021. Donc, comme quoi. Hein. Alors, cette polémique autour du nom d'une lionne et d'un lion, aussi anecdotique qu'elle puisse paraître, nous amène à parler d'un sujet beaucoup plus profond sur la grande transformation que Modi et son parti sont en train de faire vivre à l'Inde. Gilles Vernier vient d'en parler justement en long et en large. Mais comme le rappelle donc Avay Shukla, qui est un ancien grand fonctionnaire indien et qui maintenant, qui depuis qu'il est à la retraite, un blog et puis participe à plusieurs médias et journaux. Donc dans son article du Herald, National Herald du 2 mars 2024, il écrit que cette controverse avec les lions et la lionne, ça se rappelle qu'en ce moment, les villes sont renommées plus vite que M. Modi ne change de vêtements et que cette mésaventure-là avec le lion et la lionne, ça le rend nostalgique quand il était enfant où, pour un Indien, nommer une personne ou un lieu était beaucoup plus innocent, mais qu'il y avait un côté biographique au nom. Ça veut dire que dans son village ancestral, si un gars boitait, il s'appelait Langrou. S'il était borgne, il s'appelait naturellement Kana. Le frère cadet était invariablement Choctou. Un enfant vif et intelligent devait être Chakou. Le plus jeune enfant de la famille ne pouvait être autre que Nané. Une jolie petite fille s'appelait toujours Goudia. Il n'y avait aucune question approfondie qui était nécessaire lorsque tu rencontrais l'homme ou la femme. Pour la première fois, le nom était la biographie.
C'est un marqueur de caste aussi, les noms.
Mais c'est ça, maintenant, aujourd'hui, c'est ça qu'il faut se rappeler aussi. Et donc, pour les noms des lieux, c'était la même chose. On prenait les surnoms des fondateurs, d'une divinité locale, d'une structure religieuse ou d'un élément naturel. Alors, évidemment, après l'indépendance, les États, les districts, les villes ont été fréquemment renommés. Mais alors qu'auparavant, le changement de nom était généralement pour s'aligner sur la prononciation locale et indigène. Donc, par exemple, Calcutta est devenu Kolkata, avec des cas. Ce processus a aujourd'hui un caractère hyper nationaliste parce que c'est dominé par l'Hindutva, donc l'hégémonie de l'hindouisme en Inde promue par M. Modi. Et donc, on change des noms de villes et le plus souvent, les noms de villes sont des noms musulmans qu'on essaye de gommer de l'histoire indienne. Et cette transformation a un caractère encore plus sinistre, en fait, parce que ça touche de plus en plus les noms d'individus aussi. Et donc, comme les noms indiquent la religion et l'appartenance ethnique, comme tu disais, il devient de plus en plus un outil de ciblage et de persécution des minorités. Et donc, les associations d'aide sociale aux résidents n'admettent pas, par exemple, de résidents portant des noms musulmans. Si un livreur porte un nom musulman, les commandes vont être rejetées. Les gens ne veulent pas toucher à ça. Et selon certaines informations, dans certains États, les noms des minorités sont supprimés à grande échelle des listes électorales. Il y a aussi des appels occasionnels au boycott des magasins qui portent des noms musulmans. Pour contourner cela, les magasins appartenant à cette communauté adoptent et affichent souvent des noms hindous. Mais ça ne fonctionne pas toujours parce que malheureusement, lorsqu'un paiement est effectué avec l'aide d'un code QR, le nom et l'identité du commerçant sont révélés. Donc là, ça provoque des troubles, des bagarres, des boycotts ultérieurs. Donc on voit à quel point ça va loin. Là, les gens sont vraiment complètement fixés là-dessus. Et donc pour conclure, Avay Shukla constate que jamais dans le passé, les noms n'ont été un problème aussi sérieux. Ils étaient autrefois de simples marqueurs d'identité. Ils sont désormais devenus des instruments complexes de surveillance, de persécution, de harcèlement, de trous noirs numériques et de stigmates. Et M. Shukla propose de passer un système d'identification moins exploitable, tel que le code PIN. Donc, je vous rappelle qu'un code PIN, c'est un numéro d'identification personnelle avec des chiffres au lieu d'un nom. Parce que selon le Suisse, ça va devenir la seule solution pour un paradis laïque en Inde où personne ne pourrait vous lier à une caste, à une religion ou à une communauté particulière. Et ce serait pour lui, l'ironie, c'est que ce serait la seule façon d'atteindre l'harmonie dans son pays. Et lui, il demande immédiatement à choisir le 007. Parce qu'il trouve que ça lui va bien comme code PIN. Bref, c'est compliqué là, dans ce moment. Hein. Gilles Vernier nous l'a dit.
Et ça l'a toujours été, mais là, il y a comme une couche de plus.
Exactement.
Merci beaucoup, Caroline. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cet épisode en balado-diffusion sur Apple Podcasts, Spotify et Amazon Audible, ou encore sur les pages Twitter, Facebook et Instagram du balado. Vous pouvez aussi consulter la page Sans escale sur le site du Cerium pour consulter des ressources plus en profondeur sur la politique étrangère de l'Inde.
Merci d'avoir été des nôtres pour ce nouvel épisode de Sans escale, un balado du Cerium en collaboration avec la Faculté des arts et des sciences ainsi que UDM International. Merci à notre équipe composée de Caroline Delamotte à la réalisation, de Sarah Ramouni à la recherche. Merci à Émir Chouchan des bibliothèques de l'Université de Montréal, à Robin Koch à la programmation de CISM ainsi qu'à Gilles Vernier, notre invité aujourd'hui. Alors, Laura Julie, on remet ça à bientôt pour un épisode tout spécial la prochaine fois.
Absolument, avec plaisir, Laurence.
Merci.